Alors, nous sommes avec Denis Rancourt. Bonjour Denis.
Bonjour, bonjour Christian, ça fait plaisir d'être là avec toi.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi ta situation juridique?
Il y a une action civile avec la Cour supérieure de l'Ontario contre moi où on demande 1 million de dollars pour un blog que j'aurais écrit en critiquant un professeur de droit à l'Université d'Ottawa.
Qui est le professeur Lewis?
Oui, Joanne Saint-Louis.
Quelle est sa position à l'intérieur de l'université?
Elle est assistante professeure, donc avec permanence à l'université dans la faculté de droit, et elle fait common law.
Pourquoi tu as écrit le blog en question? Qu'est-ce que ça raconte?
Donc, ça se ramène à 2008. En 2008, la Fédération des étudiants a un centre qui s'appelle le Centre de recours ou le Centre des appels, et ce centre professionnel a écrit un rapport annuel dans lequel il présentait des évidences pour du racisme systémique à l'Université d'Ottawa contre les étudiants de minorités visibles à l'Université d'Ottawa. Et ce rapport a été très médiatisé. Les médias de masse se sont beaucoup intéressés au fait que les étudiants émettaient un tel rapport. Et donc, l'université a tenté d'avoir une influence sur l'opinion publique et a tenté de minimiser l'impact médiatique de ce rapport étudiant. Et pour faire ça, ils ont fait appel à ce professeur Joanne Saint-Louis, qui est noir et qui était à l'époque à la tête d'une espèce de groupe ou d'un institut à l'intérieur de l'université, là, par rapport aux droits des personnes minoritaires, je pense. Je me souviens plus du nom du groupe. Elle a été directrice de ce groupe pendant seulement un an environ, je crois. Mais à cette époque, elle était directrice. Ils ont fait appel à Joanne Saint-Louis et pour écrire une espèce de critique du rapport étudiant, un peu pour minimiser l'impact qu'ils voyaient comme négatif dans les médias.
Qu'est-ce qu'il disait ce rapport étudiant?
Il disait que dans les demandes d'appel académique, c'est surtout des étudiants minorités visibles qui étaient impliqués, en grande majorité. Et il disait que d'après leur expérience et d'après leur dossier et d'après les statistiques qu'ils avaient recueillies, qu'il y avait une évidence claire d'après eux qu'il y avait un problème de racisme systémique par rapport à des accusations de fraude académique contre les étudiants. Et donc, c'était un rapport sérieux écrit par la directrice du centre pour les appels au syndicat des étudiants et qui a un diplôme en droit et qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine, évidemment. Et donc, l'université a immédiatement fait appel à Joanne Saint-Louis, qui a immédiatement accepté d'écrire ce qu'on pourrait appeler un contre-rapport. Ils ont immédiatement fait appel au professeur Joanne Saint-Louis, qui a immédiatement accepté d'écrire une critique, un rapport critique. Elle appelait ça un evaluation report du rapport étudiant. Et ça avait comme but, et l'université a donc facilité son contact avec les médias de masse pour parler de son rapport et de sa critique. Donc, un peu pour minimiser l'impact médiatique, si on veut, de la critique étudiante.
Est-ce que la critique étudiante avait eu ce rapport, que ça avait été médiatisé beaucoup?
Oui, c'est ça le point. C'était très médiatique. C'est pour ça que l'université s'est sentie obligée ou a choisi pour des raisons tactiques, si on veut, là, d'image corporative, ils ont choisi d'intervenir en faisant appel au professeur Saint-Louis. Et à l'époque, j'ai critiqué ce rapport du professeur Saint-Louis. Donc, c'était en 2008. J'ai écrit une critique du rapport qui était une critique du rapport étudiant. Et ma critique était assez détaillée. C'était sur mon blog uofowatch.blogspot.com. Et je détaillais en quoi, d'après moi, ce rapport du professeur Saint-Louis n'était pas fait de façon professionnelle et avait tous les signes d'un rapport qui avait comme seul but de servir la haute administration en dénigrant le rapport étudiant. Et donc, j'ai écrit un article blog à propos de ça. Et on m'a pas poursuivi pour cet article-là. Tout est resté dans le silence par rapport aux poursuites légales contre moi jusqu'en 2011. Et en 2011, ce qui s'est passé, c'est que le groupe étudiant avait fait une demande d'accès à l'information pour recevoir tous les courriels internes qui avaient été échangés à l'époque où le professeur Saint-Louis avait écrit son fameux rapport. Et ils ont obtenu les documents. et ils ont rendu public en 2011 tous les courriels, les échanges entre le professeur Saint-Louis et la haute administration et entre les membres de la haute administration par rapport à cet événement médiatique et par rapport à ces fameux rapports. Et les étudiants, le syndicat donc des étudiants a rendu public ces courriels. Et quand j'ai vu ces courriels, c'était absolument clair d'après moi que ça avait comme but de minimiser le... Tout ce que j'avais avancé a été un peu, si on veut, prouvé par cette information de courriel qu'on a obtenue ou que les étudiants ont obtenu et ont rendu public. Et puis donc, j'ai écrit un nouveau article blog et cette fois-ci, j'ai été un peu plus ferme et j'ai mis dans un langage racial ce que je voyais, ce que je croyais être la situation, mon interprétation de la situation. Et donc, le titre de l'article blog était « Did Professor St. Louis act as the House Negro of Alan Rock? » Alan Rock est le recteur de l'Université d'Ottawa. Et donc, le terme « House Negro » est un terme racial bien défini qui a été défini par Malcolm X et qui est beaucoup utilisé pour critiquer les personnalités publiques noires en Amérique du Nord. C'est un terme qu'on ne connaît pas en français et ça ne veut pas dire simplement là un domestique. House Negro ne veut pas dire un domestique, pas du tout.
En fait, c'est un peu un serviteur de la haute administration ou des politiques dominantes.
C'est plus que ça.
C'est plus que c'est... ça encore.
Oui. La définition précise a des éléments additionnels à ce que tu viens de dire qui sont très importants. Okay. Et donc, je dirais qu'on pourrait le définir comme suit. C'est une personne noire qui est d'un statut élevé et qui sert le pouvoir pour maintenir les personnes noires moins privilégiées dans leur statut moins privilégié.
Donc, à quelque part, cette personne qui jouit d'un privilège social, d'une position élevée dans la société, est aussi quelqu'un qui, de par sa... comment dire, sa composante raciale, sert les intérêts d'une race qui serait aussi adverse à la sienne.
Ouais, j'imagine qu'on pourrait le dire comme ça. Et en plus, pour garder des membres moins privilégiés de sa propre race dans leur statut moins privilégié dans la société. Tu vois?
Oui.
Et ça, c'est la définition précise de House Negro telle que définie par Malcolm X. Et dans mon article blog, j'ai utilisé précisément cette définition-là et j'ai même incorporé une vidéo de Malcolm X qui explique exactement le sens de ce terme-là. Donc, il distingue House Negro et Field Negro. Si on veut, ce terme-là n'existe pas en français, mais il y a un terme en français qui est très proche de ce sens-là. Et c'est le terme roi nègre. Tu connais peut-être ce terme-là?
Oui, tout à fait. C'est quand même très utilisé dans le discours contre la colonisation et comment les colonisés ont servi la colonisation.
Oui. Donc, je dirais que le terme francophone « roi nègre » est le terme qui se rapproche le plus au vrai sens de « house negro ». C'est dans un contexte de nation et de colonisation, d'État si on veut, alors que « house negro » est dans un contexte plus large au niveau de la société, c'était à l'échelle d'une plantation, si on veut, historiquement, plutôt que d'une nation, mais c'est à peu près précisément le même sens. OK? Donc, suite à cet article blog, on a décidé de me poursuivre légalement. Alors, c'est une grande poursuite pour $1 million en dommages qui sont prétendus. Et puis, j'ai pu découvrir avec beaucoup de travail que, en fait, l'Université d'Ottawa paie tous les frais légaux pour cette poursuite. Donc, moi, j'ai dit dans mon document de défense que c'était une poursuite du type qui était par proxy, si on veut, que c'était une façon pour l'institution de m'atteindre à travers un individu qui s'adonne à être un professeur de cette institution-là. Et donc, ça c'est un de mes arguments de défense, si on veut, dans cette poursuite. Et c'est une grande poursuite, je veux dire, quand je me suis présenté en médiation, qui est une étape obligatoire dans cette poursuite récemment, il y avait le professeur de droit Joanne Saint-Louis était accompagné de 4 avocats, alors que j'étais seul de mon côté parce que je me défends moi-même. Mais ça donne un peu une idée de la quantité de ressources qui sont utilisées dans cette affaire. Et ça, c'est entièrement payé par l'Université d'Ottawa.
Mais est-ce que l'université n'a pas le devoir de protéger ses membres?
Oui, quand ses membres sont attaqués. Par exemple, si le professeur Saint-Louis était poursuivi en justice pour quelque chose qu'elle aurait dit, une poursuite de diffamation, par exemple, à ce moment-là, ils ont même une assurance et ils doivent protéger contre cette poursuite-là. Mais ici, c'est un cas très différent. C'est un individu, un professeur, qui poursuit quelqu'un d'autre. Et donc, c'est une attaque contre quelqu'un d'autre. Et donc, ils n'ont absolument pas le devoir. C'est même, je dirais, contre les procédures admises que de payer pour une poursuite contre quelqu'un d'autre. Tu vois un
Il n'y
peu
a
ce que je
rien
veux
dans le
dire?
code de l'université qui protège ses membres par rapport à la diffamation, par exemple, ce qui t'est reproché.
C'est vrai, parce que il y a dans le droit en Ontario, une institution publique ou un gouvernement n'ont pas le droit de poursuivre des individus pour diffamation. C'est contre le droit. Et la logique là, c'est que ça serait une atteinte au droit constitutionnel de l'individu, qu'une institution et que des fonds publics puissent être utilisés pour poursuivre en justice un individu.
Donc, tu dis que c'est contre tes droits constitutionnels que te faire poursuivre pour diffamation.
Dans le cas où c'est une institution publique, des fonds publics ou un gouvernement, que ce soit municipal, provincial, etc., qui poursuit un individu, ça a été démontré. La jurisprudence en Ontario est telle que c'est contre la loi, ça.
Ce qui est dit, c'est que c'est la professeure en question qui te poursuit et non l'institution. Mais que
Exact.
l'institution défend cette dame qui te poursuit pour différentes raisons.
Bon, alors, évidemment, une personne, un individu, a toujours le droit de poursuivre une autre personne pour diffamation. Ce que je suis en train de dire à propos des limites constitutionnelles par rapport aux institutions publiques n'affecte en rien le droit de l'individu de poursuivre un autre individu pour diffamation. OK? Et
Mais ce que tu dis,
ça.
c'est qu'il n'y a pas le droit de l'institution à donner les fonds nécessaires à l'individu pour te poursuivre.
Cette question précise-là n'a jamais été jugée de façon non ambiguë devant la Cour, la façon que tu viens de le dire. Mais le cas non ambigu qui a été jugé, c'est le cas où un gouvernement municipal ou un conseil scolaire, directement, la corporation poursuit un individu pour diffamation. Ce cas-là a été jugé et c'est non ambigu. La jurisprudence dit que ça, c'est anticonstitutionnel.
Donc il y a
Parce
là
que
une ambiguïté en fait.
il y aurait trop une grande asymétrie de pouvoir et donc ça ne serait pas juste, ça enlèverait la liberté d'expression de l'individu de façon trop déséquilibrée. Et donc on peut poser la prochaine question, si ça c'est pas permis, est-ce que c'est permis que l'institution paye pour qu'un individu qui est un employé de l'institution poursuive un autre individu?
Ouais.
Parce que
Puis là, ça n'a pas été tranché encore.
ça n'a pas été tranché. Et donc, ça pourrait devenir une question de droit. Ça pourrait être un élément dans cette cause qui devient une question de droit. Et à savoir comment ça va être tranché, ça va dépendre dans quelle mesure il y a vraiment une situation de ce qu'on appelle en anglais proxy. En autre mot, dans quelle mesure est-ce que l'institution a été le chef de file dans cette affaire, si on veut. Et donc, on peut imaginer tout un spectre là entre un extrême où l'université accepte de payer certains frais parce que l'individu le demande et fait un argument qui est jugé correct et qu'on a discuté au bureau des gouverneurs, puis qu'on dit, bon, ben d'accord, dans ces circonstances, pour telle et telle raison, on va accepter de payer certains de vos frais, versus l'institution carrément qui utilise un individu pour poursuivre quelqu'un d'autre. Tu vois un peu?
Oui, tout à
Donc, il y
fait.
a tout un spectre là qui est possible et on doit voir où on se situe sur ce spectre. Et donc, ça exige qu'on fasse ce qu'on appelle une découverte des documents et des faits. Mais ça, c'est juste un élément de cette poursuite, hein? Voilà.
Mais le professeur Saint-Louis, au début, t'a demandé de retirer le blog en question.
Jamais.
Non, jamais.
Jamais. Donc, moi, j'ai immédiatement communiqué avec le professeur Saint-Louis quand j'ai écrit mon premier blog en 2008. il n'y a eu aucune réponse. Et j'ai communiqué encore avec elle quand j'ai reblogué en 2011. C'était en février, le 11 février 2011. J'ai immédiatement communiqué avec elle et avec la direction de l'université et j'ai dit, voici, je viens de poster ce blog. Est-ce que vous avez des corrections, des commentaires, etc.? Aucune réponse, un silence total. La seule réponse est venue sous la forme d'une poursuite juridique. Beaucoup
Entendre
plus tard,
dire.
la poursuite légale cherche à faire ordonner que je dois retirer ce blog. Mais la poursuite légale est venue plus de 3 mois après le post de février 2011.
OK, donc la demande a été faite après la poursuite.
Non, c'était pas une demande, c'est une des exigences dans la poursuite légale. On demande un ordre de la cour pour exiger que je retire ce blog.
Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une entente, par exemple, que tu le retires en effet, ce que tu feras peut-être pas, mais qu'il y a une entente là-dessus et puis que la poursuite s'arrête là?
Il y a toujours possibilité d'entente et le système juridique prévoit une médiation obligatoire et on vient de faire tout un cycle de médiation obligatoire lors de laquelle on n'a pas pu trouver une entente.
Pourquoi tout simplement qu'on soit d'accord avec l'argument que le professeur Saint-Louis soit une house negro ou pas, pourquoi tenir absolument à ce que cet article-là demeure en ligne?
De ma part,
Oui.
c'est un article de mon expression en tant qu'agent dans la société, en tant que citoyen, en tant que personne engagée dans la société. Ça fait partie de comment j'interagis dans la communauté et dans la société. Je n'accepterai pas que mes droits de communication et de participation dans l'environnement dans lequel on vit puissent être enlevés par intimidation.
J'ai un peu l'avocat du
C'est,
diable,
oui,
mais
oui, mais c'est une question de principe.
c'est quand même des questions qui vont ou qui ont été déjà posées.
Je pense que c'est la première fois que j'accepte de faire une interview là, avec des questions directes comme ça, mais je ne me souviens pas si un journaliste m'a posé directement cette question-là, mais la réponse, de toute façon, me semble évidente. C'est une question de liberté d'expression, c'est une question de droits fondamentaux du citoyen. Oui, je me souviens d'un journaliste qui m'a posé cette question-là et j'ai bien expliqué que si j'acceptais d'enlever mes blogs à chaque fois que quelqu'un est critique par rapport à mes blogs ou n'est pas content de mes blogs, ben j'aurais pas de blog, j'aurais pas d'expression parce que le but du blog en question, ça s'appelle You of Overwatch, c'est une critique de l'Université d'Ottawa, de cette corporation, de son exécutif, de ses politiques, etc. S'il fallait, je veux dire, on a déjà menacé des poursuites légales contre mon blog dans le passé. C'est des menaces qui ne sont pas allées au-delà de la menace de ce qu'on appelle le notice of libel. Mais on a déjà fait ça dans le passé et j'ai jamais plié par question de principe.
Aux questions qui seraient posées, par exemple, cette question que tu rapportais les propos de Malcolm X, mais Malcolm X, il est noir.
Oui.
Ce qui peut être pour beaucoup de personnes moins sensible, pour parler français, j'allais dire touché, mais sensible à certaines personnes que Malcolm X dise ça sur sa propre communauté ou sur des gens à l'intérieur de sa communauté, alors que toi, ce qui t'est reproché aussi, c'est de l'avoir dit en tant que personne blanche.
Oui, mais c'est pas illégal d'être soi-disant insensible. On peut me reprocher d'être insensible. Je fais une critique et c'est une critique piquante. On dit en anglais with sting. C'est pas illégal de faire ça. Et c'est aussi pas illégal de faire une insulte, d'insulter quelqu'un. Ce qui est illégal, c'est la diffamation, ce qu'on appelle libel et puis slander. Ça, ce sont des choses.
En termes légaux, la diffamation, c'est de dire, par exemple, tu aurais dit que cette professeure ou n'importe quel autre professeur aurait fait ça, alors que c'est pas vrai, puis t'as pas d'argument ou de preuve, surtout, pour le
J'ai jamais.
rapporter. Alors que t'as
Oui.
jamais accusé Madame Saint-Louis de quelque chose en particulier et tu l'as traité avec un concept.
Il faut lire précisément le blog en question, hein? J'ai fait des énoncés précis, j'ai fait très attention comment j'ai dit les choses. C'était mon intention d'être très précis et je crois que ce que j'ai dit est tout à fait légitime, correct et précis. Et donc, je tiens à cette communication-là. Je n'ai pas fait ça à la légère. Et si j'avais fait une erreur de mauvais jugement ou quelque chose, je me serais immédiatement excusé. Mais c'est pas le cas. C'est un article qui a été écrit avec soin, dans lequel j'ai pesé mes mots et dans lequel j'ai rapporté la vérité telle que je la percevais, basée sur les données qui étaient disponibles sous une demande d'accès à l'information. Et donc voilà.
Ouais, puis en plus, ce qu'on te reproche surtout d'avoir dit, c'est le mot Ars Nigro.
Ben, c'est là aussi, il y a un peu une ambiguïté, je pourrais même dire une certaine malhonnêteté dans la poursuite légale, parce que on n'a pas été très clair sur exactement quelle est la poursuite et qu'est-ce qui est illégal et quelle est la loi qui est enfreinte. J'ai posé ces questions-là de clarification et on refuse de me répondre. Alors, par exemple, on ne m'a jamais dit est-ce qu'on m'accuse de libel ou est-ce qu'on m'accuse de slander? Et où est-ce qu'on m'accuse des deux? Et en quoi c'est un slander, par exemple? Et donc, j'ai pas de réponse à ces questions-là. On joue une espèce de jeu, si on veut, où on garde ça. J'imagine, je sais pas, je connais pas la tactique légale qui est en train d'être employée, mais on n'a pas été complètement clair. Le racisme en soi n'est pas illégal. OK? Maintenant, et moi, je parle d'une expression raciste. Pour que ça devienne illégal, ça doit traverser en ce qu'on appelle hate speech. Il faut vraiment appeler les gens à la haine. Il faut vraiment promouvoir quelque chose qui mènerait une violence physique.
Et t'as pas appelé à la violence physique contre
Non,
certaines
non,
personnes.
mais j'explique les concepts de droit, mais je veux être clair. À mon sens, ce que j'ai dit n'était pas raciste, pas du tout. Par définition, ce n'était pas raciste. C'est une expression raciale, mais je n'ai pas fait une communication raciste. Mais l'autre partie m'accuse de racisme. Mais ce racisme dont on m'accuse n'est pas illégal en soi. Même si c'était vrai, ce n'est pas illégal. Mais ça a une composante légale parce que racisme peut être un élément de ce qu'on appelle mauvaise foi. Et la mauvaise foi dans un contexte légal de diffamation peut nous enlever certaines défenses contre l'allégation de diffamation auxquelles on aurait droit s'il n'y avait pas mauvaise foi de notre part. Voyez un peu ce que je veux dire?
Ouais, tout à fait.
Donc, il y a une composante légale, mais c'est pas le racisme en soi qui est la charge légale. Même si moi, je veux être très clair que je crois fermement que ma communication n'était en rien raciste. Je pourrais écrire un article sur cette question, à
Ça pourrait être
savoir.
très intéressant. Ça
Oui.
répondrait probablement à beaucoup de questions que plusieurs personnes se posent, y compris des gens dans la communauté d'Ottawa, parce que ça m'est revenu même à moi,
Oui.
cette histoire, par d'autres dans la communauté.
Oui, mais je pense pas qu'un article rationnel et cohérent qui explique en quoi cette communication n'était pas raciste aiderait les gens qui sont convaincus que c'était une communication raciste. Parce que je me suis aperçu que cette perception est très émotive et qu'elle est attachée à l'identité propre des personnes, à leur place dans la société, à leurs avantages sociaux, etc. C'est très, très émotif et irrationnel. Ce n'est pas une évaluation objective qui est faite. Donc, je pense pas qu'une explication objective pourrait vraiment percer cette difficulté-là qu'ont les gens. Mais il y a eu une explication en quoi ce n'était pas raciste qui a été mise sur l'Internet, que j'ai mis devant la cour, qui était un affidavit par un expert psychologue, le professeur Claude Lamontagne, qui expliquait que d'après la définition du racisme et de la communication raciste, on ne pouvait pas interpréter ce que j'ai dit comme étant raciste. Et il a élaborer son explication d'après les définitions. Et il a soumis ce document-là dans une des motions que j'ai débattues devant la Cour. Okay? Donc, il y a déjà des éléments, des documents qui montrent ça.
Tout ça distrait, hein, quelque part, des critiques
Bon.
des étudiants qui reprochaient le racisme à l'Université d'Ottawa.
Ça distrait complètement et c'est, du point de vue systémique, on pourrait dire, c'est le but. C'est le but, c'est de distraire des vrais problèmes. Et c'est pour ça que ça m'emmerde un peu d'être obligé d'expliquer que ma communication n'était pas une communication raciste. Pour moi, c'est plus qu'évident. N'importe qui peut être objectif, qui n'est pas interpellé personnellement pour quelle que soit la raison ou émotionnellement, et qui lit ses propos et qui a un intellect qui peut aller chercher la définition de ce que c'est que le racisme, va immédiatement voir de façon rigoureuse que ce n'était pas une communication raciste. Donc, j'ai pas envie d'être obligé d'expliquer cela. J'aime mieux que les gens aillent lire les documents originaux, les documents d'accès à l'information. Les personnes indépendantes qui ont lu ces documents-là, quelle que soit leur couleur de peau, il y en a plusieurs qui ont communiqué avec moi et qui m'ont dit, ben, c'est évident.
Même des gens soi-disant de couleur.
Absolument. Tout à fait. Maintenant, les gens de couleur qui ont une opinion, disons, objective des faits et qui ont envie de l'exprimer sont intimidés par la communauté noire, si on veut. Et on peut imaginer les mécanismes de ça et je pense qu'il y a des exemples de ça. J'en ai eu des répercussions et c'est vraiment triste, mais il y a une espèce de coalition. C'est un peu le même phénomène qui s'est passé au Québec quand Victor Lévy-Beaulieu a traité la gouverneure générale de l'époque comme reine nègre. Et ça a fait toute une affaire dans les médias. Et il y a eu toutes sortes d'accusations de racisme. Et il y a la communauté, certains membres de la communauté noire québécoise qui a proclamé un racisme, etc. Tout le monde s'est énervé. Mais il y a d'autres membres de la communauté noire québécoise qui a dit pas du tout. Il avait raison d'utiliser ce terme-là, il a le droit d'utiliser ce terme-là, c'est un terme approprié, etc. Donc il y a eu comme ça un débat. C'est très commun dans la classe moyenne éduquée que la race joue un rôle important, un rôle politique, si on veut. Donc la race est utilisée comme levier souvent pour atteindre des avantages à l'intérieur de la classe ou pour grimper la hiérarchie de la société. Et donc, la race est utilisée comme outil politique dans les deux sens, si on veut, et souvent et couramment. Et donc, il y a nécessairement des intérêts d'individus qui sont impliqués. Dès qu'il y a question de racisme dans l'expression, il va y avoir une bagarre politique qui va s'enchaîner. C'est clair et c'est répété presque à chaque fois. Les personnes de haut statut social qui sont noires, disons, et qui voient un co-citoyen qui est critiqué pour son comportement politique dans la société en utilisant un terme racial, va immédiatement venir protéger cette personne-là parce que sinon, ça les ouvre au même type de critique. OK? Et donc, d'une part, la couleur de la peau nous donne caractéristique qu'on fait partie d'un groupe qui a été opprimé, disons. Mais d'une autre part, cette oppression historique nous donne un certain droit à travers les politiques gouvernementales, etc., à travers les perceptions sociales, une certaine protection, certains avantages, etc. Je veux dire, c'est pas des accidents que les gouverneurs généraux sont des minorités visibles récemment dans notre société. C'est pas des accidents, c'est des
Il y a
choix.
eu des tonnes, là. Il y a eu Michael Jean. Après ça, ben, Adrienne Clarkson est asiatique.
Oui, je dis récemment, donc c'est des mouvements de
Parce qu'en
société.
ce moment, c'est un blanc qui est gouverneur.
Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis pas qu'il y en a eu de façon proportionnelle. Je dis que quand il y a un tel choix, c'est un choix politique. C'est une décision qui, dans la décision politique, inclut la réalité de la race. Ça,
C'est
c'est
un peu la
clair.
même chose que pour les femmes. C'est-à-dire, on intègre certaines composantes des communautés dites raciales ou même des femmes dans un système qui les récupère pour pouvoir faire passer leurs politiques oppressives.
Exactement. C'est clair que l'État joue ce jeu. Ça m'apparaît très clair. Les critiques de personnes comme Victor Lévy-Beaulieu et autres m'apparaissent comme étant lucides et correctes. Et de prétendre que ce ne sont pas des réalités, que la race ne joue pas un rôle politique, c'est naïf, c'est presque aberrant.